Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle séance sur le climat de l'Holocène, de la période Holocène. Donc cette semaine, nous allons aborder l'évolution en fait du niveau marin et des calottes glaciaires au cours de cette période. La semaine dernière, en fait, j'avais passé la séance à vous décrire la controverse actuelle, qui est assez vive en fait, sur l'évolution des températures au cours de cette période, au cours de la période Holocène, c'est-à-dire notre interglaciaire actuel, qui dure depuis pratiquement 12 000 ans. Cette controverse, en fait, on peut la résumer, encore une fois, avec une planche tirée d'un article très récent par Bova et al. Dans Nature, qui résume un petit peu l'affaire avec, d'une part, des compilations de températures au cours du temps qui, lorsqu'on les prend collectivement à l'échelle de la planète, eh bien, indique un optimum de la température pendant la période Holocène précoce, entre 8000 et 6000 ans avant le présent. Et c'est ce maximum de température, cet optimum Holocène, eh bien, il est en conflit direct avec les simulations des modèles qui, pratiquement toutes, indiquent un climat ou une anomalie de température pendant cette période Holocène, qui indique une croissance de la température à l'échelle mondiale et non pas un optimum pour la période d'il y a 8000 à 6000 ans avant le présent. Donc c'est sur cette planche sont résumés en fait les différents ingrédients de cette controverse actuelle. D'une part, les compilations de données avec les températures brutes indiquées en rouge, des simulations de modèles. Ces simulations de modèles, en fait, elles tiennent compte de ce que l'on connaît des différents forçages climatiques pendant la période de l'Holocène, en particulier les gaz à effet de serre, qui constituent des forçages à l'échelle mondiale. C'est la courbe bleue ici, forçage radiatif lié au gaz carbonique, au méthane et au protoxyde d'azote. Somme toute, pendant cette période holocène, les fluctuations exprimées en watts par mètre carré ne sont pas très importantes pour ces forçages liés aux gaz à effet de serre. Il y a d'autres phénomènes en particulier qui ne sont pas représentés sur ce diagramme, mais qui sont pris en compte en fait, dans les modélisations, qui sont les variations en fait, de l'insolation qui sont variables en fonction des latitudes, en fonction des zones géographiques, en fonction des saisons, et qui sont liées aux fluctuations en fait, de l'orbite terrestre dans le cadre de ce qu'on appelle la théorie astronomique des paléoclimats. Donc ces forçages régionaux et saisonniers sont pris en compte dans la modélisation, et il faut aussi tenir compte, ces modélisations tiennent compte aussi des conditions aux limites du calcul, contraintes, en particulier le fait que, pratiquement au début de l'Holocène, il y avait encore des calottes de glace résiduelles situées sur les continents, en particulier le Canada avec la calotte Laurentide, la Scandinavie avec la calotte, une énorme calotte fénoscandienne, et c'est ce climat, en fait, c'est en fait ce qui a conduit le fait que le climat à l'échelle mondiale était plutôt plus froid au début de l'Holocène. Une façon de résumer en fait les choses, même si le calcul tient compte en fait régionalement de ces différentes calottes de glace résiduelles qui existaient pendant la première moitié de l'Holocène, donc de 12 000 à pratiquement 6 000 ans avant maintenant, une façon de résumer l'affaire, ce qui est résumé en fait sur cette planche, eh bien, c'est de représenter le niveau de la mer générale sous forme d'une courbe qui montre en fait que pratiquement pour toute la première moitié de la période Holocène, entre 12 000 et 6 000 ans avant le présent, nous allons y revenir, le niveau de la mer était bien plus bas que pour la période actuelle, ce qui signifie que sur les continents, il y avait d'énormes calottes de glace encore résiduelles qui n'avaient pas disparu de cette période glaciaire. Alors, on voit ici une courbe qui résume un petit peu l'évolution du niveau de la mer, où l'on voit ici une échelle en niveau de la mer, de l'ordre, on est entre moins 40 et moins 60 mètres. Donc on s'attend effectivement à avoir une influence, c'est ça qui est pris en compte dans les calculs, aussi de ces calottes de glace résiduelles, en particulier pour l'hémisphère nord. Donc il est intéressant, il est important, dans le cadre de cette controverse et de l'étude du climat de l'Holocène, de considérer les connaissances sur ces reconstitutions des calottes de glace pendant la période glaciaire et la première moitié en fait de la période holocène. Donc une façon ici vous avez une vue qui résume un petit peu la disposition des calottes de glace pendant le maximum glaciaire d'il y a à peu près 20 000 ans avant le présent et la situation actuelle pour l'hémisphère nord. Encore une fois, ce sont des connaissances qui sont relativement ancienne. Il s'agit d'une carte bon, qui est assez esthétique, donc j'aime bien la montrer, mais qui résume un petit peu l'extension et le volume des calottes de glace de la glaciation, de la dernière grande glaciation, avec en particulier au niveau du Canada une calotte qui faisait à peu près 4 km d'épaisseur, la calotte Laurentide. Sur la Scandinavie et une partie plus au nord sur la Finlande, la calotte fénoscandienne, une calotte aussi qui avait une extension jusque pour les îles britanniques, comme nous le verrons. Le Groenland était plus gros que l'actuel. De l'autre côté de la Terre, si l'on représentait l'Antarctique, là, il y avait aussi une augmentation de la taille de l'Antarctique pendant cette période glaciaire. Et ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'en fait, le début de la période holocène, il y a à peu près 12 000 ans avant le présent, ne correspond pas à une disparition instantanée de ces calottes de glace pendant pratiquement la moitié, comme nous allons voir, la moitié de la période holocène, eh bien, il y avait encore présence de calottes de glace résiduelles qui ont une influence, eh bien, encore une fois, sur le niveau de la mer, mais aussi sur le climat de la Terre, comme ce qui a pu être simulé avec les modélisations tridimensionnelles par les modèles de circulation générale que nous avons commenté la semaine dernière. Donc, pour une façon d'étudier l'extension de ces calottes et leur volume, eh bien, c'est de regarder directement au cours du temps, d'essayer de reconstituer au cours du temps, pour la période holocène, le niveau marin. Et pour ce faire, nous avons besoin d'indicateurs. Nous utilisons des indicateurs, des marqueurs, qui permettent des archives géologiques au sens large du terme, qui nous permettent de reconstituer les évolutions du niveau marin pendant la période holocène en particulier. Ces marqueurs biologiques, ici j'en représente quelques-uns, nous utilisons en particulier des coraux fossiles. Ici vous avez une vue sous-marine de coraux. Ce qu'il faut savoir, c'est que les coraux, eh bien, ce sont effectivement des animaux, mais qui vivent en symbiose avec, souvent, pour les coraux constructeurs de récifs, ces coraux vivent en symbiose avec des algues, et donc ont besoin de lumière, et en règle générale, vont suivre le niveau de la mer. Si le niveau de la mer augmente, eh bien, les coraux vont suivre cette évolution. Et de même, lorsque le niveau de la mer descend, eh bien, les nouveaux coraux qui vont pousser pendant les périodes de bas niveau de la mer, eh bien, vont suivre ce niveau de la mer parce qu'ils ont besoin de lumière pour continuer cette symbiose avec les algues qui constituent une partie de leur masse biologique, les zooxanthelles. Alors ici, vous avez quelques exemples en fait de vues de coraux à la fois modernes, des coraux sur lesquels nous allons revenir, des morphologies très particulières qui suivent vraiment très finement le niveau marin. On peut aussi mettre en évidence des hauts niveaux de la mer avec des terrasses coralliennes fossiles qu'il est possible ensuite de dater avec des outils géochronologiques, essentiellement des chronomètres radioactifs tels que le carbone 14 ou les datations par uranium-thorium. Il est aussi possible d'utiliser, lorsqu'il n'y a pas de coraux, d'autres types de marqueurs biologiques fossiles. Donc nous avons ici un trottoir alguaire typique de Méditerranée. Donc c'est grâce à ces coraux fossiles que nous pouvons reconstituer les évolutions du niveau marin. Alors c'est ce que nous avons fait en particulier pour l'île de Tahiti. Nous avons réalisé en fait plusieurs forages. Ici vous avez quelques vues en fait qui résument un petit peu les campagnes océanographiques et de terrain qui avaient été réalisées pour justement étudier des coraux fossiles et les dater pour essayer de reconstituer une courbe de niveau marin. Nous avons d'abord étudié des forages verticaux qui ont été implantés directement sur le récif barrière de Tahiti. Vous avez ici une vue en fait de la ville de Papeete avec le récif barrière qui est partiellement construit en particulier avec une partie du port qui s'étend sur ce récif barrière. Donc il a été relativement facile en fait de faire des forages qui ont été implantés comme je vous le présente. Et ces campagnes en fait, de forage dans le récif barrière de Tahiti ont été suivies par une expédition au large avec un bateau de forage qui est représenté ici. Et grâce à une collection en fait, de carottages qui ont été réalisés à la fois sur le récif barrière et au large de Tahiti, à la fois au niveau de la région de Papeete, mais aussi au sud de l'île et dans différentes zones, il a été possible en fait de reconstituer une courbe de niveau marin au cours des derniers 20 000 ans ou 16 000 ans sur ce diagramme, qui montre en fait une évolution très importante du niveau de la mer. Le niveau de la mer pendant la glaciation était de plus de 120 mètres plus bas par rapport au niveau actuel. C'est ce que nous voyons sur ce diagramme qui représente en fait les niveaux marins post-glaciaires à Tahiti, réalisés, étudiés et datés à partir de ces coraux fossiles, trouvés dans des carottages, à la fois sur le récif barrière, ce sont les symboles vert et bleu, et au large, avec les symboles, les points qui sont représentés ici en rouge. Donc on a un diagramme qui représente l'évolution du niveau marin depuis 16 000 ans, avec des niveaux qui sont très bas, plus de 100 mètres plus bas que l'actuel, ce qui signifie que les calottes de glace étaient très importantes sur les continents, et une évolution. Les chiffres qui vous sont présentés ici représentent les évolutions, les pentes en fait, de remontée du niveau de la mer exprimées en millimètres par an. Et ce qu'il faut voir, c'est que pendant une grande partie de cette déglaciation, eh bien, on a une évolution qui est de l'ordre de pratiquement 1 cm par an, 10 mm par an, ce qui est d'ailleurs trois fois supérieur à l'évolution actuelle, moderne, liée au réchauffement mondial actuel, qui est de l'ordre de un peu plus de 3 mm par an. Donc des remontées, une remontée post-glaciaire qui est très importante. La grande barre jaune verticale qui est représentée ici représente le début de l'Holocène, 11 600 ans avant le présent, comme nous l'avons vu l'année dernière et la semaine dernière. Donc nous voyons très clairement que le niveau de la mer était très bas. Finalement, au début de l'Holocène, on était pratiquement à un peu plus de la moitié de cette déglaciation. Mais on voit que pendant pratiquement la moitié de l'Holocène, eh bien, on a encore une remontée importante, ce qui signifie que les calottes de glace résiduelles existaient sur les continents, en particulier la calotte laurentide et la calotte fénoscandienne, et avec une évolution de l'ordre de pratiquement 10 mm par an pendant la première moitié de l'Holocène, pour voir ensuite une stabilisation de ce niveau marin vers 6000 ans avant le présent, avec des taux de remontée qui sont ici inférieurs à 1 mm par an. Alors ce qui va être important ensuite, c'est de regarder les détails de ces évolutions, mais on voit dès le départ qu'en faisant des études sur les récifs coralliens dans le Pacifique, en particulier pour Tahiti, toutes ces données ont été confirmées par d'autres forages, par d'autres groupes, en particulier des groupes récents qui ont travaillé sur les récifs de la Grande Barrière de Corail. Nous avons aussi réalisé d'autres études dans les Caraïbes. Et donc, toutes ces études confirment le fait que pendant la première moitié de l'Holocène, il y avait encore présence de grandes calottes de glace qui expliquent ce bas niveau de la mer, de pratiquement, ici, on est à entre 50 et 60 mètres en dessous du niveau actuel pour le début de l'Holocène. Alors, nous allons regarder un petit peu d'autres types de courbes à l'échelle de la planète pour voir si ces données se confirment. Il est possible aussi de faire le même type d'études, comme je vous l'ai dit, avec d'autres types, d'autres organismes. Lorsque l'on se tourne vers la Méditerranée, il n'y a pas de récifs coralliens à proprement parler, construits, comme nous pouvons les observer et les étudier et les échantillonner par forage dans les îles du Pacifique. Dans ce cas-là, il est possible en fait d'étudier d'autres archives, en particulier ce que l'on appelle des trottoirs algaires. Il y a ici, vous avez une photo sous-marine typique de Méditerranée où l'on voit un biotope particulier qui s'appelle le coralligène. Et pratiquement à la surface, il y a des algues encroutantes qui vont former du calcaire. Ici, quelques vues justement de ces algues particulières. Ces algues particulières, elles vont former un espèce de trottoir algaire qui est vraiment au ras de l'eau, comme le représente cette coupe schématique. Il est donc des édifices construits qui sont de l'ordre de quelques dizaines de centimètres et qui sont formés finalement de calcaire que l'on peut retrouver à l'état fossile. Et lorsqu'il y a évolution du niveau marin, eh bien on va pouvoir dater les archives anciennes pour placer des points sur une courbe de niveau marin local correspondant à la zone géographique où sont récupérés, où sont échantillonnés en profondeur ces différents organismes. Donc, une utilisation, voici un exemple d'utilisation de ces trottoirs algaires au niveau de la, du sud de la France, au niveau de la zone entre La Ciotat et Porquerolles. Vous avez donc les collègues ont échantillonné sous l'eau des trottoirs alguéaires fossiles et ont pu les dater et donc reconstituer une courbe de niveau marin apparent, local, qui, au moins pour les derniers 5000 ans, avec des points qui indiquent que le niveau de la mer a évolué dans le temps, pratiquement pendant toute cette période, de 5000 ans avant le présent jusqu'à l'actuel, le niveau de la mer a augmenté et n'a jamais été en particulier plus haut que le niveau actuel, on le voit très clairement. Ici, vers 5000 ans avant le présent, on est à un peu plus de 1,50 m, donc une évolution qui est tout à fait caractéristique. Alors, il est possible de poursuivre dans le temps, avec d'autres archives, d'autres types d'indicateurs, cette courbe de niveau marin au niveau de la zone sud de la France. C'est ce que nous avons fait avec d'autres collègues. Mais il est un des points importants de ces études est de montrer que, pratiquement pendant toute la période holocène, le niveau de la mer était plus bas que l'actuel. À aucun moment, en tout cas sur la zone sud de la Méditerranée, le niveau de la mer a atteint le niveau actuel. Une des preuves, je dirais, les plus éloquentes est fournie par les peintures préhistoriques de la grotte Cosquer. Ici, vous avez une coupe en fait schématique de cette grotte Cosquer qui actuellement est partiellement inondée. Les hommes du Paléolithique ont peint, donc pendant la glaciation, ont peint cette grotte. Il était possible pendant la glaciation, comme le niveau de la mer était à plus de 100 mètres inférieur au niveau actuel, eh bien, il était possible d'aller à pied sec dans cette grotte. Et les populations, enfin, les hommes du Paléolithique ont peint, en particulier des chevaux ou des grands pingouins atlantiques. Et d'autres représentations encore. Et ce qu'il est possible de voir, c'est qu'à l'heure actuelle, en particulier les chevaux, sont vraiment très proches du niveau marin actuel. Sur cette photo, on voit la partie noire là, qui est à ce niveau-là, est en fait constituée de l'eau de la Méditerranée actuelle, qui est pratiquement au niveau des pattes des chevaux. En fait, une partie des pattes de certains chevaux ont été effacées par le niveau marin actuel, qui a évolué, comme on l'a vu depuis 5000 ans, avec une croissance, une montée continue du niveau de la mer. Et c'est aussi une des preuves, cette grotte Cosquer, ces peintures de la grotte Cosquer, constituent une des preuves que le niveau de la mer n'a jamais été très supérieur à l'actuel, sinon les chevaux auraient été complètement effacés. Ici, vous avez à peu près 1 mètre, donc il est clair que si le niveau de la mer était passé au début de l'Holocène par un optimum, eh bien, on aurait dû avoir une disparition de ces peintures, malheureusement, mais fort heureusement, justement, le niveau de la mer n'a pas atteint le niveau actuel, et donc ils ont été préservés. Donc, c'est donc une des preuves de ce non-dépassement du niveau actuel pendant l'Holocène. Alors, c'était un petit point sur le niveau marin, l'évolution pendant les derniers millénaires au niveau de la zone méditerranéenne du sud de la France. Il est possible, en fait, de faire le même type d'études avec d'autres archives, ici, au niveau de la Bretagne. Quelques enregistrements ont été obtenus avec d'autres archives tout autour de la Bretagne. Il y a aussi des évidences archéologiques qui montrent que le niveau de la mer a évolué pendant la période holocène. Ici, juste un petit exemple, une photo d'une double enceinte mégalithique qui est située sur une île dans le golfe du Morbihan. C'est la petite île d'Erlanik, où il y a un célèbre double cromlech qui est une grande partie en fait de cette double enceinte est actuellement submergée et illustre bien que depuis le néolithique il y a eu une montée du niveau de la mer. Donc ce sont des évidences archéologiques, mais les géologues vont utiliser d'autres types d'archives pour reconstituer quantitativement une évolution du niveau marin à partir notamment de sédiments. Ici vous avez un des sites d'études qui a été utilisé pour le Finistère, en baie de Tresseny. Vous avez l'implantation de différents forages qui ont été réalisés par les géologues. Et grâce à des études fines de la géologie de ces carottages, il est possible de matérialiser, d'identifier le contact entre les sédiments continentaux et les sédiments marins qui signalent justement le fait qu'il y a eu transgression. Et en datant cette interface, il est possible de reconstituer, grâce à ces différents carottages, la transgression post-glaciaire pour la période Holocène. Alors, c'est ce qui a été fait pour ce site de la baie de Trécénie et pour d'autres encore tout autour de la Bretagne pour reconstituer un enregistrement moyen biniveau marin en Bretagne depuis pratiquement le début de l'Holocène. Ici, on va jusqu'à 9000 ans avant le présent. Donc toujours à partir de la gauche, l'évolution du temps avec la petite flèche rouge, qui vous montre les différentes datations sur différents types d'archives dans ces carottages, avec une évolution, une montée du niveau de la mer progressive pendant les derniers 8000 ans, 9000 ans. Ici, on est à des profondeurs par rapport au niveau actuel, le zéro actuel, qui sont de l'ordre de pratiquement moins 20 mètres à 9000 ans. Avec une évolution, et dans ce cas-là encore, on voit très nettement qu'à aucun moment pendant la période Holocène, le niveau marin était supérieur au niveau actuel, ce qui confirme encore une fois le fait qu'il y avait d'énormes calottes de glace sur les continents. Alors on va voir qu'il est possible de faire ce type d'étude dans de nombreuses régions. Encore une fois, une autre étude, là encore plus récente, d'un enregistrement du niveau marin pour la zone de l'estuaire du Rhin et de la Meuse. Donc, ce sont des collègues hollandais qui ont réalisé ces études à partir de différentes archives, de différents carottages prélevés dans ces, à la fois sur le continent et en mer. L'implantation des forages est indiquée sur cette carte. Et grâce à ces différents forages et à la datation de l'évidence de la transgression avec le contact entre les sédiments continentaux et les sédiments marins, il est possible de reconstituer en fonction du temps, ici avec une échelle de temps exprimée en milliers d'années avant le présent, ici pour toute la période Holocène, depuis 12 000 ans avant le présent jusqu'à la période actuelle, on a une remontée très progressive du niveau marin jusqu'au niveau actuel. Ici, on part vers 12 000, 11 000 ans avant le présent, à des cotes de l'ordre de moins 30 jusqu'à moins 35 mètres par rapport au niveau actuel, et on voit une progression très régulière de l'évolution du niveau marin pour cette zone du Rhin et de la Meuse, de l'estuaire du Rhin et de la Meuse, avec, encore une fois, cette caractéristique sur le fait que, pendant toute la période de l'Holocène, le niveau marin était beaucoup plus bas que l'actuel. On a une progression et une évolution du niveau marin pendant toute la période. Alors, ce type d'étude a été répliqué dans différentes zones, et il est possible, en fait, en comparant les évolutions du niveau marin pour ces différentes zones, de calculer, de comparer et de calculer des gradients, des taux de remontée en fonction du temps pour essayer de les cartographier et détecter des différences. Parce qu'en fait, une des caractéristiques de ces différentes courbes de remontée du niveau marin, qui sont bien datées avec les mêmes outils et sur les mêmes types d'archives, il est possible en fait de détecter certaines caractéristiques régionales, notamment le fait que la remontée post-glaciaire du niveau marin n'est pas équivalente dans les différentes zones géographiques, même à l'échelle d'une zone qui est relativement limitée, comme la zone qui est représentée ici sur cette carte, qui va depuis le sud de la péninsule ibérique jusqu'à la Manche, jusqu'au nord de la France. Pour toute cette zone, il est possible de voir des différences entre les remontées du niveau marin post-glaciaire, en particulier pendant la période Holocène, et de cartographier des changements. Alors, c'est ce qui a été fait pour différentes périodes. Ici, vous avez une cartographie pour la période entre 7000 et 6000 ans avant le présent, du taux de remontée exprimé en millimètres par an, avec des gradients qui sont tout à fait caractéristiques, qui sont systématiques, avec notamment des maxima du taux de remontée exprimé en millimètres par an, situés ici dans la zone de la mer du Nord, nord de la France, et des zones avec des taux de remontée qui sont bien inférieurs. Donc on voit que les taux de remontée sont différents suivant la zone géographique, et surtout qu'il y a des différences systématiques qui sont d'ordre régional. Donc on s'attend à avoir une certaine complexité en fait dans cette remontée du niveau marin post-glaciaire pour des périodes qui sont finalement assez tardives. 7000, 6000 ans avant le présent, il n'y avait pratiquement plus de calottes résiduelles sur le Canada et sur la Scandinavie. En tout cas, c'est ce que nous indiquent d'autres évidences, en particulier les moraines glaciaires périphériques de ces différentes calottes. Alors, il est intéressant de s'éloigner encore plus de la zone de l'Atlantique Nord. On va aller maintenant jusque dans le Pacifique. Et pour le Pacifique, il est possible, encore une fois, là, d'utiliser les coraux, comme nous l'avions fait pour reconstituer la grande courbe de niveau marin depuis le maximum glaciaire jusqu'à la période actuelle pour Tahiti. Et assez souvent, il est intéressant, pour la période holocène, d'utiliser des morphologies particulières des coraux qui poussent sous la forme de ce que l'on appelle des micro-atolls. Ces micro-atolls, en fait, sont des archives un peu particulières qui nous permettent des morphologies particulières des colonies coralliennes, qui nous permettent d'avoir une information assez précise, très précise, en fait, sur l'évolution du niveau de la mer, parce que ces morphologies particulières suivent vraiment très finement le niveau marin. Alors, ici, vous avez quelques photos, en fait, qui représentent des micro-atolls typiques du Pacifique. Ici, une morphologie particulière qui montre, en fait, que ces colonies sont limitées dans leur pousse verticale par le niveau marin. Elles sont obligées de pousser horizontalement. Et donc, quand on les trouve à l'état fossile, eh bien, on peut avoir une précision quasiment centimétrique ou au moins décimétrique sur le niveau de la mer. Il est même possible, en fait, pour des micro-atolls récents, d'étudier des fluctuations très récentes, en fait, du niveau marin. C'est ce qui est indiqué ici. Vous avez ici une coupe d'un micro-atoll venant des îles du Pacifique, où il est possible de compter des cernes annuelles et de reconstituer à sa surface des changements du niveau marin. Ces changements du niveau marin ici ne sont que de l'ordre de quelques centimètres et sont en fait liés au phénomène El Niño. Encore une fois, c'est une illustration du fait que cette morphologie particulière de coraux nous permet de reconstituer le niveau de la mer de façon très précise au point de vue quantitatif sur la bathymétrie. Donc d'autres exemples, à Mayotte, un autre exemple du Pacifique. Encore une fois, le principe de base est que, en fait, ces colonies coralliennes qui forment des micro-atolls, tout à fait au départ, vont commencer à pousser et elles vont atteindre le niveau marin et être limitées, finalement, leur pousse verticale va être limitée par l'existence de ce niveau de la mer, si on suppose qu'il est stable. Ici, vous avez juste un petit schéma de principe qui montre une évolution, justement, qui est nul du niveau de la mer, un niveau de la mer qui va être stable. Dans ce cas-là, eh bien, la colonie juvénile va croître et atteindre le niveau stable et ensuite être obligée de pousser horizontalement, donc en retrouvant des fossiles de ces micro-atolls, il va être possible, en les datant, d'avoir une information très précise sur le niveau de la mer. Il est même possible, dans certains cas, de pouvoir mettre en évidence directement dans la même colonie corallienne de micro-atolls des évolutions du niveau de la mer. Si le niveau de la mer augmente en particulier, eh bien, c'est quelque chose qui va pouvoir se voir, se lire directement en faisant des coupes à l'intérieur de ces colonies fossiles. Il est aussi possible de matérialiser une baisse du niveau marin, ce qui est indiqué ici. Dans ce cas-là, lorsqu'il y a baisse du niveau de la mer pendant la croissance de cette colonie corallienne, eh bien, on va avoir un étagement et des marches en escalier de ces pousses de coraux successifs qui vont nous indiquer une évolution du niveau de la mer pendant la vie de la colonie. Mais en tout cas, en tout état de cause, lorsqu'on retrouve ces colonies de microfossiles, de micro-atolls à l'état fossile, ce sont des indicateurs très précis du niveau marin, et elles sont ces morphologies, ces fossiles de micro-atolls sont très utilisés pour reconstituer le niveau de la mer pour la période holocène. Alors ici, quelques exemples de quelques photos prises par des collègues de mon laboratoire au Cérège à Aix-en-Provence, où nous étudions justement les micro-atolls, en particulier en Polynésie. Ici, vous avez un micro-atoll actuel qui, encore une fois, est tout à fait typique, avec une zone nécrosée qui correspond au fait que le corail ne peut pas pousser verticalement au-delà du niveau actuel, et une pousse qui va être centripète horizontale, donc la colonie va augmenter en taille uniquement en poussant horizontalement si le niveau de la mer est stable. Et sur les autres photos, vous sont présentées des photos de microfossiles, de micro-atolls fossiles de l'Holocène pour différentes îles, ici Maupiti, Fakarava, une colonie qui justement a enregistré une évolution du niveau de la mer pendant sa croissance. On voit très nettement des marches en escalier qui signalent le fait que le niveau de la mer a évolué et descendu pendant la pousse du corail. Un autre micro-atoll fossile, Holocène, provenant de Bora Bora. Donc on voit tout à fait typiquement les bourrelets qui sont liés justement à ce taux de pousse centripète de cette morphologie particulière de récifs coralliens. Alors ces récifs coralliens, ces micro-atolls fossiles, ont été étudiés depuis assez longtemps. Ici, vous avez une compilation qui date déjà pratiquement de 20 ans, qui montre en fait que lorsque l'on fait une compilation et une datation de ces micro-atolls de l'Holocène pour la zone pacifique, eh bien, on peut mettre en évidence un haut niveau de la mer au-dessus du niveau actuel pour la période mi-Holocène. Ici, vous avez un diagramme qui représente une compilation avec différentes îles qui sont représentées ici, des datations qui ont été réalisées sur ces micro-atolls qui présentent tous une bathymétrie positive, c'est-à-dire qu'ils sont situés au-dessus du niveau actuel, jusqu'à quelquefois 1,50 m au-dessus, voire 2 m au-dessus du niveau actuel. Donc une compilation qui date encore une fois, mais qui a été confirmée par la suite. On voit très nettement un haut niveau de la mer, mi-Holocène, entre 8000 ans et 6000 ans avant le présent. Alors ce sont des choses qui ont été étudiées dans d'autres zones, dans d'autres îles. Ici, vous avez des diagrammes en fait, plus récents qui ont été réalisés, notamment par des collègues du laboratoire, ici tirés d'un travail très récent, des données sur les micro-atolls. Alors ici, l'échelle de temps de ce diagramme évolue de droite à gauche. On a les milliers d'années pour la période entre 7000 ans et l'actuel. Ce que l'on peut voir, et encore une fois, ici, les cotes en fait, sont positives, sont au-dessus du niveau marin actuel. Donc il est possible d'échantillonner, d'observer ces micro-atolls à pied sec, ils sont au-dessus du niveau actuel. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, le niveau de la mer a effectivement augmenté pour atteindre un maximum vers ici 3-4 000 ans avant le présent, donc un maximum à partir de 5-6 000 ans avant le présent, et une chute du niveau de la mer pendant les derniers 3 000 ans, avec un taux de descente du niveau de la mer qui est ici de l'ordre de pratiquement 0,4 mm par an, ce qui est, dans ce cas précis, très inférieure à la hausse actuelle qui est de l'ordre de 3 mm par an, liée au réchauffement mondial. Mais encore une fois, une descente qui, elle, est systématique d'ordre géologique, qui vient partiellement compenser, et encore une fois, qui est un ordre de grandeur inférieur à la montée actuelle. Donc quelque chose de vraiment systématique, ici pour des îles de Polynésie, Bora Bora, Maupiti, Rangiroa, Tetiaroa, Tikeao, des îles bien connues. Ici, d'autres zones du Pacifique, d'autres îles du Pacifique, Kiribati, avec des micro-atolls situés au-dessus du niveau actuel. Ici, un zoom sur la période un peu plus récente, la période historique depuis pratiquement 2500 ans avant le présent. Ici, les âges sont représentés en années AD. Donc ici, depuis 500 avant notre ère jusqu'à la période actuelle. Donc on voit une diminution du niveau de la mer. Donc on a une descente du niveau de la mer, encore une fois, qui est de l'ordre de 0,3-0,4 mm par an. Dans ces îles. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait systématique, un haut niveau de la mer, tout à fait caractéristique de ces îles du Pacifique. Si l'on regarde un peu dans les détails, lorsqu'on fait des comparaisons, on voit que la hauteur en fait, de ce haut niveau de la mer dans ces îles est variable, suivant les zones géographiques, comme nous allons le voir. Alors, lorsque l'on fait des compilations de ces différents enregistrements du niveau de la mer, à la fois en Atlantique et dans toutes les zones géographiques de par le monde, et qu'on les représente sur un diagramme général, eh bien, on trouve une effroyable complexité qui est résumée sur ce diagramme. Ici, c'est un diagramme en fait, qui avait été établi par un collègue spécialiste, un des pionniers justement des études régionales du niveau de la mer, Paolo Pirazzoli, un diagramme qui montre en fait qu'il y a une variabilité absolument énorme des courbes d'évolution du niveau de la mer pendant la période holocène. Donc, encore une fois, je rappelle, la période holocène, c'est cette partie entre 0 et 12 000 ans avant le présent. Donc, on est sur cette partie. Et donc, lorsque l'on représente ces différentes courbes locales du niveau de la mer, certaines indiquent une évolution, une augmentation du niveau de la mer, une remontée, ce qui est tout à fait compatible avec cette remontée générale post-glaciaire. On passe d'une glaciation avec d'énormes calottes de glace à une période interglaciaire, donc on s'attend à voir le niveau de la mer monter. Mais il y a d'autres zones qui présentent des changements beaucoup plus faibles, alors que d'autres, comme on va le voir, présentent une évolution qui est tout à fait contraire, qui est contraire à l'intuition. On a des zones où le niveau de la mer va descendre, et descendu depuis le début de l'Holocène, quelquefois de façon très importante. Ici, vous avez des points qui sont situés à plus de 200 mètres au-dessus du niveau de la mer actuel pour la période du début de l'Holocène. Donc on voit une extrême variabilité lorsque l'on représente toutes les courbes de niveau de la mer qui ont été étudiées de par le monde, qui souligne le fait qu'il y a probablement une complexité, alors, ou bien des incertitudes dans les différents indicateurs, mais encore une fois, ce n'est pas cela qui conduit justement à cette complexité. Comme on va le voir, cette dispersion apparente des différentes courbes de niveau de la mer, elle est liée essentiellement à des phénomènes géophysiques. Et au premier ordre, elle est caractérisée en fait par une dispersion qui a une cohérence régionale. Quand on essaye de maintenant étudier ces différentes courbes de niveau de la mer en les représentant régionalement ou en en représentant certaines, eh bien, on voit que cette diversité des évolutions des niveaux de la mer holocène a une certaine régularité régionale. En particulier, on voit qu'à l'échelle de la planète, il y a des zones tout à fait caractéristiques où le niveau de la mer évolue de façon logique, c'est-à-dire qu'on a une augmentation pendant la période holocène, post-glaciaire. Donc ici, encore un exemple ici au niveau du sud de l'Angleterre, donc une évolution qui ressemble à celle que je vous ai montrée pour la Bretagne ou pour la zone de l'estuaire du Rhin et de la Meuse. Donc une évolution tout à fait caractéristique, moins 35 mètres jusqu'à l'actuel. On retrouve cette montée caractéristique aussi dans des zones un peu plus éloignées. Ici, une courbe à laquelle nous avons participé, une courbe d'évolution du niveau de la mer pour l'île de la Barbade, avec en particulier pour la période entre du début de l'Holocène jusqu'à la période actuelle, une augmentation du niveau de la mer. Ici, on est à moins 40, moins 50 mètres au début de l'Holocène. Donc une évolution qui est logique. Par contre, lorsqu'on va dans le Pacifique, eh bien, on voit pour la période, en particulier la période depuis 7000 ans jusqu'à l'actuel, pour cette courbe qui représente un site d'étude au niveau de l'Australie, on voit le contraire, c'est-à-dire qu'on a une évolution négative, c'est-à-dire une tendance à la diminution, à la baisse du niveau marin depuis ce haut niveau de la mer du début de l'Holocène, mais ce sont des choses qui sont tout à fait caractéristiques de la zone pacifique. Cette complexité, on peut y ajouter aussi des évolutions qui, elles, sont complètement, qui vont complètement dans l'autre sens, avec des courbes de niveau de la mer, notamment les courbes de niveau de la mer qui sont situées dans certaines zones géographiques, en particulier au niveau du Canada, au niveau de la Scandinavie, on voit des évolutions du niveau de la mer, avec un niveau de la mer qui baisse pendant toute la période de l'Océan. Ici, un exemple tout à fait typique de la baie d'Hudson, au Canada, où on a des niveaux marins au début de l'Océan, bon, ici à 10 000 ans, qui sont de l'ordre de 300 mètres plus haut que le niveau actuel, pour descendre pendant toute cette période. Et on voit des choses à peu près similaires pour la Suède, ici, avec une évolution qui va aller dans l'autre sens. Et bon, ces courbes qui vont effectivement dans l'autre sens, elles sont concentrées dans des zones géographiques bien particulières, et donc cette dispersion apparente qui était tout à fait caractéristique dans le graphique précédent, qui montrait une compilation de tous les enregistrements, eh bien, elle va être comprise justement en regardant régionalement ces différents enregistrements pour comprendre en fait la cohérence qui est liée, encore une fois, à des phénomènes géophysiques, en particulier un phénomène qui a eu lieu pendant toute la période de la déglaciation, incluant même la période actuelle, comme nous allons voir, qui est le fait que la Terre se remet en forme pendant cette période post-glaciaire. C'est ce que l'on appelle le réajustement isostatique post-glaciaire, qui affecte la Terre entière, qui finalement a mis des millénaires et met encore du temps à se remettre en forme, car pendant la glaciation, elle a été déformée par la présence de ces calottes de glace énormes sur les continents, en particulier le Canada et la zone de la Scandinavie. Donc il faut imaginer ici, c'est un diagramme de principe, lorsqu'une calotte de glace se forme, elle pèse en fait, même si la densité est bien inférieure à la densité de roche, il faut imaginer qu'une calotte de glace de l'ordre de 4 km d'épaisseur, eh bien, c'est l'équivalent d'une montagne d'à peu près 1 km, et donc ça a une incidence sur la croûte terrestre, ça a tendance à déformer cette croûte terrestre, c'est ce qui est symbolisé sur ce diagramme imagé, avec une calotte de glace qui va créer une dépression, et tout autour de cette calotte de glace, à une très grande échelle, ça peut atteindre aussi la partie océanique, il y a formation d'un bourrelet périphérique, donc vous voyez ici des petites flèches qui symbolisent le mouvement de la croûte terrestre, qui est lié justement à cette présence d'une calotte de glace, symbolisée, vue en coupe, bien évidemment, avec une dépression au centre et des bourrelets périphériques qui vont être caractérisés par une surrection pendant la glaciation. Et donc ces déformations vont être accompagnées aussi de mouvements à la fois de tension au niveau de la lithosphère, mais aussi de mouvements visqueux, beaucoup plus en profondeur, dans le manteau terrestre, des mouvements qui ont une composante aussi horizontale, comme cela vous est signalé sur ce diagramme. Lorsque cette calotte de glace disparaît pendant la période de la déglaciation, eh bien, la fonte de la calotte de glace peut être rapide, mais la remise en forme de la Terre, en fait, est beaucoup plus lente, en particulier car à cause de la viscosité qui est très faible, qui est très grande, en fait, du manteau terrestre. Et donc, on a finalement un diagramme qui est représenté ici. On a, après disparition de cette calotte de glace, une remise en forme qui va prendre des millénaires à cause justement de cette viscosité du manteau, avec une surrection, un uplift en anglais, une surrection qui va être très lente, qui va durer bien après la disparition de la calotte de glace. Et d'autre part, la zone du bourrelet périphérique va, elle, subir des mouvements qui vont être des mouvements verticaux qui vont être inverses, qui vont être caractérisés par une subsidence pour, à l'équilibre, compenser et remettre en forme cette surface terrestre comme elle l'était avant la croissance de la calotte de glace. Et bien évidemment, pendant cette période de rebond, ce qu'on appelle le rebond isostatique post-glaciaire, eh bien, le manteau va être caractérisé lentement par des mouvements horizontaux pour venir remettre de la masse finalement de roche sous ces zones qui étaient englacées. Alors ce taux de surrection, il est tout à fait caractéristique, et ce sont des choses qui peuvent être étudiées et qui, encore actuellement, parce que cette remise en forme de la Terre après la glaciation est un phénomène qui se poursuit encore aujourd'hui et qui peut être étudié avec des mesures très précises. Ici, vous avez une cartographie, c'est ce qui est résumé sur ces deux cartographies, pour les zones qui étaient situées sous la calotte laurentide et sous la calotte fénoscandienne. Vous avez une remontée actuelle du continent que l'on peut mesurer avec des mesures actuelles par GPS. Ici, vous avez un résumé des différents taux de surrection exprimés en millimètres par an, observés directement aujourd'hui dans cette zone, avec des remontées qui peuvent aller jusqu'à pratiquement 1 cm par an. Le diagramme ici est gradué en millimètres par an, donc on voit des flèches verticales qui indiquent que le continent remonte avec des vitesses de l'ordre du centimètre par an, ce qui est colossal lorsque l'on va considérer un trait de côte. Et de même, tout autour, la zone du bourrelet périphérique, on voit qu'elle a tendance à descendre. Ce sont les petites flèches jaunes ici. On voit que tout autour, en tout cas sur le continent, on voit que tout autour, effectivement, les mesures GPS permettent de mettre en évidence un taux de subsidence qui est bien inférieur, qui n'est pas de l'ordre de 10 mm par an, mais qui est inférieur, mais qui est tout à fait caractéristique qui permet de, justement d'étudier cette zone périphérique. Alors, le même type d'enregistrement a été obtenu avec les mesures de GPS actuelles au niveau de la zone de la Scandinavie. Donc ici, vous avez une carte avec, on retrouve la Suède, la Finlande ici, et ce que l'on appelle enfin, la Baltique, la mer Baltique, le golfe de Botnie. Et les couleurs ici représentent les taux de surrection exprimés en millimètres par an. On voit très clairement la signature en fait de la présence, donc le fantôme, on va dire, de cette calotte de glace phéno-scandienne, scandinave, qui était centrée effectivement sur ce golfe de Botnie, donc avec des remontées qui vont au-delà, dans certaines zones, au-delà de 10 mm par an, 1 cm par an. Alors, il est possible d'étudier ce type de mesure actuelle, encore une fois, de réajustement qui se poursuit encore aujourd'hui, qui est lié à la glaciation d'il y a 20 000 ans. Donc cette Terre, notre Terre, se remet en forme progressivement encore actuellement. On peut faire ces études aussi pour des calottes plus petites. Ici, vous avez un diagramme qui résume un petit peu les choses pour les îles britanniques. Je vous avais montré tout à fait au départ sur les cartographies des glaciers, des calottes de glace pendant la dernière période glaciaire et donc pendant la période post-glaciaire qui présentait une calotte au niveau des îles britanniques. Eh bien, c'est ce qui explique qu'une partie des îles britanniques, en particulier l'Écosse, le nord de l'Angleterre, une partie de l'Irlande, eh bien, sont caractérisées par un taux de surrection, alors que les zones, en particulier situées beaucoup plus au sud, elles ont une composante qui est inverse, qui est liée au fait qu'elles sont dans la zone du bourrelet qui a tendance à subsider, à descendre. Alors ici, vous avez une cartographie des taux de montée exprimés en millimètres par an. Alors, une autre façon de représenter et d'étudier le rebond isostatique post-glaciaire actuel est de considérer en fait les évolutions du champ de gravité, en particulier les données qui nous sont fournies par les satellites gravimétriques, en particulier ceux de l'expérience GRACE. Ce sont des satellites jumeaux qui se suivent à peu près à 200 km l'un de l'autre et dont la distance est précisément calibrée, mesurée. Et cette distance entre les deux satellites, qui sont représentés sur la partie gauche de cette planche, cette distance entre les deux satellites va être une fonction des masses terrestres sous-jacentes qui sont survolées en fait par la paire de satellites. Et comme ces satellites tournent en permanence autour de l'aide de la Terre, eh bien, ils permettent de mesurer de façon très fine, de peser finalement, et de voir les évolutions des masses à la surface de la Terre et en profondeur. Donc c'est ce qui a été réalisé pendant toute cette période de 2002 à 2017. L'expérience GRACE a été suivie par une autre expérience qui continue en fait l'enregistrement. Ici, vous voyez un enregistrement des mesures brutes, entre guillemets, de GRACE au niveau de l'Amérique du Nord et du Groenland, avec les évolutions au cours du temps, pour la période actuelle, encore une fois, exprimées en équivalent en centimètres par an d'eau. C'est-à-dire qu'on voit une évolution des masses terrestres que l'on exprime en évolution en centimètres d'eau équivalent, essentiellement parce que, c'est ce qui est vu en particulier pour les zones représentées ici en bleu, ce que l'on peut voir avec cette expérience GRACE, et c'est un des buts en fait de cette expérience, c'est de quantifier au cours du temps la fonte des calottes de glace actuelles, en particulier le Groenland. Ici, on voit très nettement une diminution qui est focalisée sur le sud est du Groenland, exprimé en millimètres, en centimètres par an de baisse de la masse de du Groenland, qui est liée justement à la fonte actuelle. Par contre, au niveau de du nord du Canada, en particulier de la baie d'Hudson, on voit exactement le contraire. Dans ces mesures brutes, on voit une anomalie qui, elle, est positive, c'est-à-dire qu'on a une augmentation de la masse. Alors, si en n'étant pas sur le terrain, on pourrait même croire en fait, qu'il y a croissance d'une nouvelle calotte de glace au niveau de la baie d'Hudson. En fait, ce n'est pas cela, c'est juste la signature de cette remise en forme de la Terre avec des flux de matière terrestre qui vont donc converger vers cette zone de la baie d'Hudson pour en augmenter la masse et qui ensuite sont convertis sous forme d'équivalent en eau en centimètres par an. Donc on voit une énorme anomalie. Alors cette énorme anomalie, pour pouvoir effectivement cartographier l'évolution des calottes de glace actuelles, il faut en fait la corriger. Et c'est ce que nous verrons en fait. Il y a des modélisations qui permettent de rendre compte, de modéliser, de comprendre quantitativement et de le prévoir, le phénomène de rebond isostatique post-glaciaire pour corriger en fait ces anomalies qui sont liées à des phénomènes très anciens, mais qui, encore une fois, agissent actuellement. Alors le fait qu'il y ait un rebond isostatique post-glaciaire très significatif dans les zones qui sont situées sous les anciennes calottes de glace, en particulier la calotte Laurentide sur le Canada et la calotte phénoscandienne, en particulier centrée au niveau du golfe de Botnie, c'est quelque chose qui est connu depuis plusieurs siècles. Un des premiers à s'être intéressé au problème était Anders Celsius, qui est très connu pour son échelle de température, un scientifique suédois qui était très intrigué par le fait que dans certains ports de Suède, il y avait des roches qui commençaient à apparaître, qui sortaient de l'eau. Et donc Anders Celsius, en particulier pour une roche qui maintenant est tout à fait caractéristique et célèbre dans le monde de la géophysique, il a fait une marque en 1731 sur un rocher dont une photo récente vous est présentée sur cette planche, d'un bloc erratique glaciaire sur la petite île de Löfgrund en Suède, avec une marque qui a été réalisée en 1731 et qui, à l'heure actuelle, donc à l'époque, elle était à fleur d'eau, elle était au niveau de la mer, et alors que maintenant, elle est située à pratiquement 3 mètres de hauteur par rapport au niveau actuel, hein, qui est représenté ici. Donc vous avez, ce qui est intéressant, c'est que ce rocher a été... Les scientifiques étaient intrigués, en particulier les géologues. Un autre pionnier de la géologie et de la géophysique, l'anglais Charles Lyell, est retourné en fait sur le site un siècle après pour constater effectivement ce qu'avait observé Anders Celsius, mais en particulier aussi qu'il y avait eu une évolution depuis la marque de Celsius réalisée en 1731. Et Lyell, ici, c'est un diagramme qui est tiré directement d'un article de Lyell en 1835, a fait une deuxième marque en 1831 qu'il a indiqué sur cette planche, sur cette figure qui est directement tirée du travail de Lyell. Et vous avez donc une photo, il est avec une marque qui a été réalisée encore un siècle après, en 1931, et les collègues suédois sont impatients de remettre une autre marque pour 2031, qui sera encore plus basse que le niveau actuel, comme vous le voyez ici. Donc on a quelque chose qui est tout à fait caractéristique, qui peut être cartographié pour toute la zone, en particulier du golfe de Botnie et la baie d'Hudson, qui n'était pas du tout compris par les géologues de l'époque. À l'époque de Celsius, lui croyait en fait que son hypothèse était que la mer s'évaporait et que donc il y avait disparition de l'eau à cause de ce phénomène. Ce n'est que bien plus tard, un siècle encore plus tard, que des géophysiciens comprendront le phénomène qui est effectivement régional, qui est localisé au niveau des anciennes calottes de glace, avec une modélisation mathématique, physique du phénomène, en particulier en tenant compte du fait qu'il y a une évolution dans le temps de ces plages fossiles que l'on peut étudier, dater dans les deux zones du golfe de Botnie et de la baie d'Hudson. Ici, vous avez un diagramme qui est représenté ici sur la droite de cette planche, qui vous montre en fait l'évolution des plages fossiles au niveau de la baie d'Hudson, avec des plages qui évoluent de pratiquement 200 mètres vers 7000 ans, 8000 ans avant maintenant, pour atteindre le niveau actuel. Encore une fois, le niveau de la mer apparent descend, mais c'est en fait tout le continent qui remonte. Alors, ce phénomène, il a été modélisé physiquement par, en particulier, un chercheur américain, Haskell, qui a démontré que, dans ces zones, eh bien, on peut montrer qu'avec une géométrie de calotte de glace hémisphérique, on peut montrer que la dépression qui était située sous la calotte de glace, l'amplitude de cette dépression, exprimée par le symbole W ici, suivait une loi exponentielle au cours du temps, en tenant compte de la physique, justement, de cette remise en forme et de la rhéologie des roches, en particulier de la viscosité du manteau terrestre. Donc avec une géométrie très très simple de calotte de glace hémisphérique et avec une symétrie de révolution, il a pu montrer en fait que la loi de relaxation était en fait une exponentielle que l'on peut retrouver à partir des données, à la fois des données localisées ou étudiées en Scandinavie et dans la baie d'Hudson. Donc vous avez cette loi exponentielle en fonction du temps et d'un coefficient taux qui est en fait un temps de relaxation qui est de l'ordre de 3000 ans. Le temps de relaxation est, en fait, dépend à la fois de la géométrie de la calotte, de son diamètre en particulier, et de la viscosité. C'est d'ailleurs une des premières techniques qui a permis de calculer, de quantifier la viscosité en fait, du manteau terrestre à l'époque. Donc, alors, à l'heure actuelle, bien évidemment, comme nous le verrons, les modèles ont beaucoup évolué. On est capable de prendre en compte la réalité et les gradients tridimensionnels de la rhéologie et la morphologie pratiquement exacte des calottes de glace. Ce n'était pas le cas à l'époque, mais encore une fois, dans ces zones, les choses se simplifient avec des taux de descente du niveau de la mer tout à fait caractéristiques qui suivent une loi quasi exponentielle. Alors, dans ces zones, tout autour de ces zones où il y avait les calottes de glace, comme je vous l'ai dit, en périphérie, il y avait une zone de bourrelets périphériques qui était caractérisée par une surrection pendant la glaciation, pendant la formation de la calotte de glace qui avait tendance à créer une dépression et donc une zone périphérique en surrection tout autour. Eh bien, après disparition de la calotte de glace, cette zone périphérique qui va très loin, qui va jusque dans la zone océanique, eh bien, elle a tendance à descendre. Eh bien, un phénomène de subsidence, c'est ce qui est indiqué sur ces deux schémas, avec sur le trait de côte un cumul finalement des deux changements du niveau de la mer liés d'une part à la montée du niveau de la mer qui est liée au fait qu'il y a plus d'eau dans l'océan à cause de la fonte des calottes de glace, donc on a un phénomène d'augmentation générale du niveau marin lorsqu'on s'éloigne, comme on l'a vu à Tahiti en particulier, donc on a une montée générale, mais en plus dans cette zone, dans ces zones du bourrelet périphérique, de bourrelets périphériques autour des grandes calottes de glace, eh bien, on va avoir une zone où, de façon régionale, on va avoir un cumul des deux phénomènes, à la fois montée à cause du niveau du volume d'eau supplémentaire qui provient des calottes de glace, et le taux de subsidence, donc le continent descend. Donc on va avoir un cumul de ces deux phénomènes et une montée apparente du niveau marin qui va être plus importante que la remontée purement liée au volume d'eau qui est échangé entre les continents, les calottes de glace et l'océan qui gagne effectivement pendant la transition post-glaciaire, qui gagne effectivement de la masse. C'est ce que l'on appelle la remontée eustatique. Donc on a un cumul dans ces zones du bourrelet périphérique. Alors, c'est en fait ce qui explique, c'est le cas en particulier pour les zones que nous avons considérées, par exemple la Bretagne ou la zone de mer du Nord que nous avons considérée. On voit une augmentation très nette, en particulier pour la zone de la mer du Nord, qui est complètement liée justement à ce cumul dans la zone de bourrelet périphérique tout autour de ces calottes de glace. Alors, on pourrait le voir aussi au niveau des côtes américaines. Par contre, c'est pas ça qui va bien évidemment expliquer les hauts niveaux de la mer holocène que nous voyons dans le Pacifique. Et ces hauts niveaux de la mer, en fait, ils s'expliquent essentiellement par aussi des phénomènes géophysiques qui sont encore une fois liés à ce réajustement isostatique post-glaciaire, à cette remise en forme terrestre que l'on va essayer de comprendre au moins qualitativement et qui peuvent être quantifiés par modélisation géophysique. En fait, très loin des calottes de glace, en particulier dans le Pacifique, donc très éloigné par rapport à la Laurentide et à la calotte fennoscandienne, eh bien, le niveau de la mer il va être affecté, en particulier sur une côte du Nil, par, d'une part, la montée eustatique, essentiellement liée à la fonte des glaces. C'est ce qui est symbolisé en fait, sur ce diagramme schématique, qui montre au cours du temps, ici vous avez une petite courbe très schématique qui représente le phénomène en deux temps, en fait. La première période correspond à la fonte des glaces et donc à une montée du niveau de la mer entre le point A et le point B au cours du temps, donc sur le trait de côte ici qui est représenté pour une île, avec d'une part la lithosphère et le manteau ici. Donc vous avez une évolution du niveau de la mer qui est liée à la fonte et à ce flux d'eau vers l'océan, donc entre le point A et le point B. Et entre ces deux moments, en fait, il faut imaginer une colonne d'eau qui est importante, de l'ordre d'une centaine de mètres, ce qui représente la densité finalement d'une trentaine de mètres de basalte. Et donc cette masse d'eau, elle a un certain poids, elle a tendance à peser sur le fond de l'océan et à pousser finalement littéralement le fond de l'océan. Et si l'île est suffisamment grande, elle va être stable, en fait, en particulier pour un continent comme l'Australie. L'Australie, le centre de l'Australie ne va pas bouger, mais par contre, le fond de l'océan, le plancher océanique, va de façon graduelle, c'est un phénomène qui est relativement lent, qui est lié à cette, encore une fois, les deux phénomènes interviennent pratiquement en même temps, mais on peut considérer que le phénomène de fonte des glaces et donc de montée liée au volume d'eau est un phénomène qui est rapide. On a disparition des calottes et puis ensuite le phénomène viscoélastique lié au fait que cette masse d'eau va pousser le fond de l'océan, c'est un phénomène qui est beaucoup plus lent et qui va donc intervenir sur des milliers d'années après la disparition de la calotte de glace. Donc c'est effectivement ce qui se passe. On passe du point A au point B et ensuite un phénomène qui va intervenir pendant les millénaires qui vont suivre, avec un plancher océanique qui va descendre, et qui va descendre en particulier là où il y a en plein océan, et donc sur le trait de côte, on va passer du point B au point C. Donc c'est ça qui explique en grande partie les hauts niveaux de la mer de l'Holocène, ce qui est appelé donc, le Holocene Iceland sur ce diagramme, un petit haut niveau de la mer, de l'ordre de 1 mètre ou 2 mètres, pour des îles, en particulier pour des îles même très grandes, comme l'Australie, qui, encore une fois, ne bouge pas en son centre, à cause de ce phénomène de remise en forme océanique. Alors, il y a plusieurs autres phénomènes qui viennent se cumuler, qui viennent amplifier ce petit haut niveau de la mer qui est lié à l'Holocène, et qui sont non pas d'ordre... qui ne sont pas uniquement localisés dans le Pacifique à proximité de la zone géographique autour de l'île en question, mais qui intéressent finalement la Terre dans sa globalité et qu'on peut, en particulier pour un mécanisme, résumer sur ces deux diagrammes. C'est en fait ce qui est appelé un effet de siphon de la subsidence du bourrelet périglaciaire. Encore une fois, le diagramme du haut en fait, représente de façon très schématique la surface terrestre dépliée entre la zone où il y avait les calottes de glace, on peut imaginer ici la Laurentide sur le Canada, avec son rebond, avec la remise en forme de cette dépression, donc une remontée de ce niveau après la fonte de la calotte de glace qui a disparu. Mais il faut imaginer que tout autour de cette zone englacée, il y avait une zone avec un bourrelet qui atteignait aussi toute la zone océanique avec une déformation qui est symbolisée ici par la croûte terrestre. Et de l'autre côté de la Terre, au niveau de la zone du Pacifique, eh bien, on va considérer un petit îlot qui est symbolisé par cette petite pointe ici. Donc pendant la première période qui est liée à cette fonte rapide des glaces et donc augmentation du volume d'eau dans l'océan, le niveau de la mer va atteindre en fait une cote qui va être maximale. Et encore une fois, cette hauteur d'eau supplémentaire va peser sur le fond de la mer. Et en plus, il va y avoir une remise en forme qui est liée au rebond isostatique à la fois sur le continent et une remise en forme, une diminution de ce bourrelet au niveau de la zone océanique. Donc, comme on peut le voir, schématisé sur ce diagramme, on passe du diagramme du haut au diagramme du bas, avec une subsidence dans cette zone périphérique autour des calottes de glace au niveau du plancher océanique. Donc on a une subsidence et donc une augmentation finalement de la taille de la cuvette et donc une diminution, une petite diminution du niveau marin qui va être communiquée à l'océan dans son entier, jusque dans la zone du Pacifique. Donc on voit dans ce diagramme eh bien, que assez rapidement, le niveau de la mer va augmenter jusqu'à une cote maximale et redescendre à cause de ce phénomène de subsidence qui va intervenir, en particulier si l'on considère la calotte Laurentide, qui va intervenir en particulier dans la zone de l'Atlantique. On va avoir une subsidence du plancher océanique, mais qui va créer de l'autre côté de la Terre une petite diminution du niveau de la mer. Donc les deux phénomènes, les phénomènes régionaux et les phénomènes globaux vont se superposer, il y a d'autres phénomènes encore, pour expliquer ce haut niveau de la mer qui n'est pas un artefact, qui est juste un changement réel du niveau de la mer local, mais qui n'a qu'une valeur locale. Encore une fois, le niveau de la mer général n'a pas atteint la cote actuelle pendant l'Holocène, comme nous allons le voir. Alors, ces phénomènes de réajustement post-glaciaire sont des phénomènes qui sont relativement lents, qui sont liés au fait que les viscosités sont extrêmes dans le manteau terrestre, et donc c'est pour cela que, à l'heure actuelle, encore maintenant, il y a une évolution du niveau de la mer dans ces zones, et donc une remise en forme qui n'est pas terminée, alors que la glaciation s'est terminée finalement il y a pratiquement au moins 6000 ans avant maintenant. Donc cette remise en forme, elle est très lente, mais il y a aussi des phénomènes qui peuvent être beaucoup plus rapides et qui sont liés à des réajustements de l'attraction gravitationnelle des calottes de glace sur l'océan. C'est quelque chose qui maintenant est bien caractérisé. Ce qu'il faut avoir en tête, en fait, c'est que une calotte de glace, qui est schématisée ici, à proximité de l'océan, elle a, de par sa masse, une influence sur le niveau de l'océan, qui est très exagérée sur ce diagramme. Il y a une attraction gravitationnelle de la glace, de la calotte de glace, sur l'océan, et donc ça a tendance à créer une petite pente, qui est ici, sur ce diagramme, tout à fait exagérée. Donc une petite pente avec attraction de l'océan par la calotte de glace. Lorsque cette calotte de glace perd de la masse, eh bien, il y a forcément une augmentation du niveau de la mer générale, puisqu'il y a de la glace qui se transforme en eau et donc qui va faire augmenter le volume total de l'océan. C'est ce qu'on appelle le niveau de la mer statique. Mais en plus, localement, régionalement, l'attraction gravitationnelle de la glace, de la calotte de glace sur l'océan va diminuer. Et donc, cette petite pente, qui est très exagérée sur ces diagrammes, va diminuer. Et en fait, localement, régionalement, tout autour de la calotte de glace qui perd de la masse, de façon tout à fait contre-intuitive, le niveau de la mer va descendre, c'est ce qui est symbolisé ici. En périphérie de la calotte de glace dans l'océan, le niveau de la mer descend. Par contre, de l'autre côté de la Terre, eh bien, le niveau de la mer va augmenter finalement plus que ce qu'il ne devrait si on était dans un système très simple de vases communicants. Alors, ce sont des phénomènes qui peuvent être étudiés à la fois dans le passé et sur les niveaux actuels. On peut aussi les modéliser. Ici, vous avez une modélisation physique, justement, du phénomène avec une modélisation de la fonte des glaces en provenance à la fois du Groenland et de l'ouest de l'Antarctique avec... Pour simplifier les choses, dans le calcul, les chercheurs ont supposé qu'il y avait une évolution de l'ordre de 1 mm par an, c'est-à-dire qu'il y avait une fonte des deux calottes de glace de façon équivalente, 0,5 mm par an en provenance du Groenland, 0,5 mm par an en provenance de l'ouest de l'Antarctique. Et donc on s'attendrait, s'il y avait uniquement une propagation et une augmentation équivalente à l'échelle de la planète, on s'attendrait à avoir exactement la même montée partout de l'ordre de 1 mm par an. Et ce que l'on voit, donc qui est représenté finalement par par l'interface entre les couleurs bleues et les couleurs froides et les couleurs chaudes, hein, entre le bleu et le jaune. Mais ce que l'on voit, c'est qu'en fait, en tout cas c'est ce que le calcul montre, eh bien, à cause de cette diminution de l'attraction gravitationnelle du Groenland sur l'océan et de l'Antarctique sur l'océan, eh bien, on a des gradients de la montée du niveau de la mer qui vont être très conséquents. En particulier, il y a une zone périphérique qui est représentée ici en blanc au nord et au sud, où le niveau de la mer va être négatif, alors qu'on a perdu de la masse, de l'ordre de 1 mm par an en moyenne générale. On voit que, de façon tout à fait caractéristique, à proximité, mais de façon, enfin, pour une zone qui est relativement large, à proximité sur des milliers de kilomètres, du Groenland et de la source des glaces provenant de l'Antarctique de l'Ouest, on a une montée du niveau de la mer qui va être bien inférieure au millimètre par an, et de façon bien évidemment attendue, puisqu'il y a en moyenne une montée de 1 mm par an dans le calcul, eh bien, d'autres zones, en particulier la zone du centre du Pacifique, va être caractérisée par une augmentation qui va être supérieure. Donc on a des gradients qui sont liés justement à ces changements de l'attraction gravitationnelle. Et c'est, si je montre ces variations, c'est juste pour souligner aussi le fait qu'il y a des phénomènes qui peuvent être rapides, parce que ces compensations gravitationnelles ne vont pas attendre, vont s'établir de façon quasi instantanée, en tout cas au point de vue géologique, en contrepoint de ce que l'on a vu pour le rebond isostatique post-glaciaire qui est lié à la remise en forme, lié justement à la viscoélasticité du manteau. Donc un cumul de nombreux phénomènes qui vont expliquer le fait que les différentes courbes du niveau de la mer régionales vont finalement toutes être différentes. Il n'y a pas une courbe de niveau de la mer sur un trait de côte qui va échantillonner le signal simple eustatique que l'on cherche, qui correspond finalement à l'évolution du volume d'eau lié au transfert de masse depuis les calottes de glace jusqu'à l'océan. Mais il va falloir tenir compte en fait de toutes les courbes locales, régionales, pour essayer de reconstituer cette évolution du niveau de la mer générale. Alors ici, vous avez donc les chercheurs, en particulier, nous avons participé notamment pour certaines zones. De nombreux chercheurs, de nombreux groupes ont reconstitué des évolutions du niveau de la mer pour la période post-glaciaire. Et c'est ce qui est indiqué, ici vous avez une compilation des zones géographiques, tout chaque point représente une courbe de niveau de la mer établie avec plusieurs archives. Il faut imaginer, par exemple pour l'île de Tahiti, vous avez de nombreux carottages qui permettent de reconstituer l'évolution du niveau de la mer régionale ou locale, localement dans ces zones. Et toutes ces, comme je vous l'ai montré, il y a une disparité régionale, mais en fait qui est tout à fait cohérente et qui est liée au fait que les masses de glace, eh bien, pour la période post-glaciaire, provenaient essentiellement de la fonte de la calotte laurentide qui était située ici et de la calotte fennoscandienne qui était située sur la Scandinavie. Donc on a accès, avec cette base de données géologiques des niveaux marins holocènes, à une information qui va pouvoir être utilisée en combinaison avec des modèles de géophysique qui nous permettent de simuler de façon réaliste le phénomène de réajustement isostatique post-glaciaire. Si vous avez une vue, une planche en fait, qui résume un petit peu la géométrie de ces modèles, essentiellement, ces modèles, eh bien, ils représentent de façon cartographique, en deux dimensions, les surfaces qui étaient couvertes par les calottes de glace, sont intégrées aussi la rhéologie en fonction de la profondeur, en fonction, ici vous avez une colonne qui part de la surface, la lithosphère au manteau supérieur, au manteau inférieur, toutes ces couches qui, dans une grande partie des modèles, sont considérées comme concentriques, hein, vous avez donc c'est des modèles 2D5, avec des caractéristiques en fonction de la profondeur, des modules élastiques et visqueux des différentes roches. Ces modèles, à l'heure actuelle, il y a une nouvelle génération de modèles qui est apparue dans les dernières années qui prennent en compte en fait, les gradients aussi horizontaux de ces paramètres viscoélastiques et d'épaisseur des différentes couches terrestres. Mais en première approximation, en fait, tous ces modèles vont être vont être utilisés en mode essai-erreur, avec, en utilisant les différentes informations, à la fois les niveaux de la mer locaux et l'extension des calottes de glace de la, à différentes périodes, en particulier en considérant les moraines qui peuvent être étudiées sur les continents. Toutes ces informations géologiques vont être intégrées au calcul et pour faire converger le modèle vers une représentation correcte des différentes courbes en les prenant finalement toutes en considération, et ce qui va donc faire converger le modèle vers une solution parfaite pour la déglaciation générale pendant toute la période post-glaciaire. Il est possible avec ces modèles qui sont à la fois qui représentent donc la géophysique du phénomène de façon cartographique et en fonction de la profondeur dans le manteau terrestre, et il est possible aussi de simuler les caractéristiques actuelles du rebond isostatique post-glaciaire. Ici, vous avez tiré des travaux de géophysiciens qui justement ont généré un de ces modèles, une cartographie des prévisions du rebond isostatique actuel. Donc on retrouve encore une fois les zones en rouge qui sont des zones qui remontent avec des taux de déformation de l'ordre de quelques millimètres par an, des zones périphériques que l'on retrouve en bleu qui descendent avec des taux de descente relativement importantes, des zones situées à plus basse latitude qui montrent en fait des taux beaucoup plus faibles. Donc globalement, on retrouve les caractéristiques, on retrouve aussi le fait que la zone antarctique va remonter parce qu'elle a perdu aussi de la masse pendant la période post-glaciaire. Donc on retrouve en fait des caractéristiques tout à fait fondamentales, des données qui sont simulées finalement avec ce type de modèle qui, à l'heure actuelle, prennent en compte aussi une complexité tridimensionnelle. Alors, avec ces modèles par essai et erreur, tiennent compte des données reconstituées des différentes courbes de niveau de la mer locales, il est possible, en fait, de reconstituer l'évolution du niveau de la mer général, le niveau marin global ou eustatique, qui est directement lié, finalement, au volume d'eau qui est passé du continent, enfin des continents, en particulier des calottes de glace Laurentides et Fennoscandiennes, vers l'océan, au cours du temps, pendant la période de l'Holocène. Alors, c'est ce qui est indiqué sur cette planche. Ici, vous avez un résumé, finalement, assez récent des différentes courbes qui tiennent en compte, en fait, la complexité des courbes régionales d'évolution du niveau marin, en les intégrant et en essayant de les approcher de la façon la plus fidèle, et au final le modèle finalement permet de calculer un niveau de la mer moyen général qui permet de rendre compte de toutes ces différentes courbes régionales. Ici vous avez plusieurs diagrammes, plusieurs courbes en fait qui montrent des calculs récents justement depuis le début de l'Holocène, depuis 12 000 ans avant le présent jusqu'à l'actuel. On voit que les courbes elles montrent toutes une évolution pendant la première moitié de l'Holocène, donc on répète ce que l'on a vu tout à fait au départ, c'est-à-dire que le climat de l'Holocène se caractérise effectivement par la présence très significative des grandes calottes de glace résiduelles, Laurentides et Scandinaves, avec un niveau de la mer ici qui, suivant les différents auteurs, varie de façon équivalente. Ici, il s'agit de niveau de la mer eustatique, donc de niveau moyen général global, qui varie entre 60 mètres et 50 mètres en dessous de l'actuel, avec une évolution, une augmentation du niveau de la mer, une montée du niveau de la mer générale jusqu'à 6000 ans avant le présent. On voit donc une stabilisation à partir de 6000 ans avant le présent. Donc on retrouve finalement des caractéristiques qui ne sont pas très éloignées de la courbe de Tahiti que je vous ai présentée tout à fait au départ. Mais encore une fois, ces courbes globales, elles tiennent compte non seulement de la courbe de Tahiti, mais en plus de toutes les autres informations, en particulier les informations locales, régionales, situées à proximité des calottes de glace, qui permettent de mieux contraindre les volumes de glace que ne peuvent le faire des sites isolés, en particulier le site de Tahiti. Donc on a au premier ordre une compatibilité entre les différents calculs établis par différents groupes de géophysiciens. On voit aussi qu'il y a une certaine disparité, une certaine dispersion des courbes. On voit qu'il y a des différences de pratiquement 20 mètres ici, au milieu, enfin, tout à fait au début de l'Holocène. On a pratiquement 20 mètres entre les différentes estimations de courbes eustatiques. Donc là, il s'agit d'une courbe qui devrait être globale. Et donc les disparités, les différences sont liées à des différences dans les calculs ou de la prise en compte des données. On voit aussi que toutes ces courbes convergent vers le niveau actuel, vers 6000 ans avant le présent, mais on voit quand même des différences. Certains auteurs suggèrent que le niveau de la mer a été atteint et est ensuite quasi stable depuis 6000 ans avant le présent, alors que d'autres montrent qu'en fait, il faudrait faire un zoom ici sur la partie la plus récente, on voit une certaine évolution de quelques mètres pendant les derniers 6000 ans, ce qui est tout à fait important à prendre en compte pour étudier les calottes de glace. Alors, voici un diagramme justement qui permet d'étudier un petit peu plus cette période plus récente. On revient ici sur les micro-atolls et régionaux au niveau d'une île du Pacifique, l'île de Kiritimati, avec des hauts niveaux de la mer situés au-dessus du niveau actuel. Donc un des modèles qui a été utilisé pour simuler à l'échelle globale cette complexité, permet de rendre compte, ce sont les courbes qui sont représentées ici, permet de rendre compte de l'altitude de ces micro-atolls, hein, c'est la courbe rouge ici, qui est compatible avec les observations locales. Encore une fois, ces observations locales, elles sont au-dessus du niveau de la mer à cause des réajustements, comme je vous l'ai montré auparavant. Mais par contre, dans le calcul, le niveau marin global du modèle qui régionalement simule la courbe de Kiritimati, le niveau global équivalent, est représenté ici par la courbe bleue. Et donc, on voit qu'en fait, pendant toute la période tardi-holocène, à partir de 6000 ans avant le présent jusqu'à pratiquement 2000 ans avant le présent, le niveau marin global n'était pas atteint. Alors, encore une fois, il ne s'agit pas de dizaines de mètres, mais il s'agit quand même de quelques mètres. On est, selon cette modélisation, à l'échelle globale, représentée juste par une courbe locale, mais encore une fois, il faut imaginer que la modélisation a été faite à l'échelle globale. Le niveau marin eustatique, lui, pour cette période, c'est celui qui nous intéresse pour comprendre les volumes de glace sur les continents, était bien inférieur à l'actuel pendant toute cette période. À aucun moment, on était au-dessus du niveau actuel. Alors, l'interprétation de 6000 ans avant maintenant jusqu'à l'actuel, les données, on pourrait les montrer, mais les données d'extension des calottes de glace résiduelles de la Laurentide et de la calotte scandinave montrent en fait qu'il n'y avait plus de calottes dans ces deux zones. Donc, très clairement, pendant toute la période tardi-holocène, depuis 6000 ans jusqu'à l'actuel, les deux seules grandes calottes de glace qui peuvent avoir contribué à cette augmentation sont d'une part l'Antarctique et le Groenland, qui pendant la glaciation avait des volumes plus importants, mais dont la fonte résiduelle a peut-être perduré jusqu'à l'actuel. Justement, c'est une des interprétations qui est proposée par les auteurs qui ont étudié les données à l'échelle globale et en particulier avec des contraintes fortes liées à ces micro-atolls de l'île de Kiritimati. C'est une des hypothèses qui est proposée que l'augmentation qui est calculée du niveau global équivalent pendant toute la période de 6000 ans à l'actuel est liée à une fonte de la calotte antarctique qui a perdu de la masse pendant le début de l'Holocène. Alors, il y a des évidences géomorphologiques. Là, il est aussi intéressant d'aller considérer localement, régionalement, les évidences de fonte, en particulier en Antarctique. On ne va pas regarder les détails de ces différentes études, mais très récemment, il y a eu plusieurs groupes en fait, qui ont mis en évidence effectivement que le début de l'Holocène est caractérisé par une fonte tout à fait notable de la calotte de l'Antarctique, en particulier la partie ouest de l'Antarctique. Ici, je vous ai juste mis les titres de quelques-uns des papiers récents sur justement les fontes, en particulier dans la zone de la mer de Weddell, avec apparemment une une fonte prépondérante pendant, au milieu de l'Holocène, d'autres données pour la mer de Ross, située dans une autre zone, une autre étude qui signale qu'il y a même eu une réavance, enfin une retraite et ensuite une réavance de la calotte antarctique, ouest antarctique, pendant l'Holocène. Donc des données géomorphologiques très détaillées qui sont complétées chaque année. Encore une fois, il y a des évidences qui sont publiées pratiquement tous les mois sur une cartographie locale, régionale de ces évolutions en étudiant localement le trait de côte et les données géologiques dans la zone antarctique. Alors, il est aussi, ce qui est apparemment caractéristique, c'est que la partie ouest en fait de l'Antarctique est assez sensible, a été assez sensible, et le reste encore, en particulier pendant les derniers millénaires. Et c'est l'hypothèse à l'heure actuelle qui a été proposée par les auteurs pour expliquer cette évolution depuis 6000 ans, de quelques mètres apparemment, dans les calculs de reconstitution du niveau de la mer générale. Pourquoi l'Antarctique de l'Ouest ? Eh bien, il faut avoir en tête en fait, que l'Antarctique de l'Ouest est, est tout à fait caractéristique et en particulier... en liaison avec un phénomène très particulier d'instabilité de ces masses de glace qui sont liées au fait que la géométrie du contact entre la calotte antarctique et le substratum géologique est tout à fait particulier. Ici, vous avez une carte de l'Antarctique qui vous présente en fait les zones où le contact entre la calotte antarctique et la roche et sont situées, les zones où le contact est situé sous le niveau de la mer sont les zones représentées en grisé. Les zones qui sont représentées en blanc sont aussi sous le niveau de la mer, mais elles ont en plus la caractéristique de présenter une pente négative, c'est-à-dire que la pente de ce que l'on appelle la ligne d'échouage, qui est représentée ici, ici vous avez une coupe de la calotte antarctique avec, qui représente ici le niveau de la mer et le contact entre la calotte et la roche sous-jacente, on voit que dans certaines zones, la pente en fait, du substratum va vers le centre de la calotte antarctique. Dans ces zones qui sont localisées à l'heure actuelle, ici c'est une carte actuelle de ces, qui cartographie ces différentes zones situées sous le niveau de la mer actuelle, mais en particulier les zones blanches représentent les zones où la pente du substratum est orientée vers le centre de la calotte, ces zones en fait, sont très sensibles à toute pénétration de l'eau de mer à l'interface entre la calotte de glace et le substratum, parce que dès que l'eau va s'engouffrer à l'interface, par gravité, cette eau va pouvoir pénétrer et continuer de grignoter, de faire fondre la calotte de glace avec un phénomène d'accélération tout à fait caractéristique. Ce sont des zones qui sont très sensibles et qui sont donc... instables, qui ont été instables apparemment pendant l'Holocène, c'est une des interprétations, c'est pour cela en fait que les chercheurs émettent l'hypothèse que la provenance de ces quelques mètres de variation du niveau de la mer pendant les derniers millénaires proviennent de l'Antarctique de l'Ouest. Bon, il y a des évidences géologiques, mais donc c'est logique de les attendre dans cette zone. Cette cartographie, c'est une cartographie actuelle qui montre qu'en fait, il y a encore des zones qui sont tout à fait instables. Il y a pratiquement 3 mètres d'équivalent eustatique de niveau de la mer, de changement de niveau de la mer, qui sont actuellement stockés dans ces zones instables, qui sont situées dans le substratum, dans l'interface entre la roche et la calotte antarctique est située sous le niveau de la mer actuelle, mais en plus avec une pente qui est orientés vers le centre de la calotte, donc qui sont sensibles, qui sont instables, qui potentiellement peuvent se décrocher assez rapidement si effectivement l'océan, si l'eau de mer peut s'engouffrer à l'interface, ce qui est symbolisé ici sur ce diagramme tout à fait imagé. Donc on a la ligne d'échouage qui correspond finalement au contact entre la calotte et le substratum. Donc une hypothèse qui est émise, c'est que la provenance en fait de la fonte de glace qui explique cette évolution du niveau de la mer tardif serait liée justement à ces zones instables de la calotte antarctique. Encore une fois, il y a des évidences en Antarctique pour des instabilités pendant la période de l'Holocène. Il est aussi intéressant, il est aussi important d'aller, de se tourner vers l'autre calotte de glace qui existe, alors qui a une masse qui est beaucoup moins, qui est bien moindre, qui est beaucoup moins importante, qui est la calotte de glace du Groenland. Et il est intéressant de la considérer aussi, de considérer sa contribution tardi-holocène, même si, effectivement, la masse est beaucoup moins importante, et donc on s'attend à avoir moins de contributions à l'évolution du niveau de la mer depuis 6000 ans. Mais il est possible, en fait, d'étudier finement les niveaux marins en périphérie de la calotte de glace du Groenland. C'est ce qui a été fait par de nombreux chercheurs. Ici, vous avez un résumé d'une étude récente avec où ont été reconstituées des courbes locales du niveau de la mer en périphérie du Groenland, ici pour trois zones au sud du Groenland. Alors ici, les diagrammes évoluent de droite à gauche. En fait, ce qui est réalisé, ces études sont réalisées essentiellement en étudiant des sédiments qui sont prélevés dans des lacs situés en périphérie de la calotte du Groenland. Ici, vous avez le paysage côtier, avec ces petits lacs qui, autrefois, qui sont étagés à différentes altitudes. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en fait, ces différents lacs étaient en contact direct à une certaine époque avec l'océan. Donc, ils sont caractérisés en profondeur par des sédiments marins et ensuite une succession avec des sédiments lacustres lorsque le lac a été exondé et a été émergé à cause de ce phénomène de surrection en liaison avec la perte de masse du Groenland. Donc en fait, il est possible, à partir de l'étude de ces différents lacs étagés sur la côte du Groenland, de reconstituer des courbes d'évolution du niveau de la mer pour ces différentes zones, et à terme de cartographier tout autour du Groenland cette surrection pour essayer de caler, pour essayer de calculer l'évolution des masses au niveau de toute la calotte du Groenland. On voit une évolution que l'on retrouve, en fait, qui est équivalente finalement à celle que l'on avait vue pour le golfe de Botnie et pour la baie d'Hudson. On a une évolution avec une diminution du niveau de la mer très rapide. Ici, le temps évolue de droite à gauche pour la période holocène. Ici, un zoom pour la baie de Disko, qui est située à l'ouest du Groenland, avec des différentes courbes qui présentent même un minimum, c'est-à-dire qu'on a des niveaux de la mer qui vont passer sous le niveau actuel pour ensuite recroître, donc ce qui est compatible aussi avec un minimum de tardi-holocène de la masse de la calotte du Groenland. Alors, il est possible, il y a d'autres, pour l'instant, ces enregistrements, eh bien, ils sont collectés par les différents chercheurs. On attend d'avoir de l'information sur toute la zone, tout le pourtour du Groenland pour effectivement faire des bilans de masse précis du Groenland. Il est aussi possible d'aller cartographier, d'aller étudier le retrait de la calotte en étudiant les roches qui ont été découvertes lors du retrait de la calotte du Groenland. Ici, vous avez tiré d'une étude récente à laquelle nous avons participé. Il est possible, en fait, de dater directement ou de mesurer la durée d'exposition des roches qui ont été découvertes par la fonte, par le retrait holocène du glacier, enfin de la calotte de glace du Groenland. Ici, vous avez juste une représentation de la zone d'étude au sud-ouest du Groenland, avec juste une photo d'un des sites d'étude, avec la calotte du Groenland qui est représentée, enfin qui est vue ici, elle est assez sale sur son pourtour, et des roches qui ont été découvertes récemment, où il est possible en fait de faire des mesures. Il est possible dans ces roches ici quelques photos des affleurements, il est possible en fait de faire des mesures de certains isotopes qui vont être formés par le rayonnement cosmique directement dans les roches lorsque ces roches sont découvertes. Et donc il est possible de calculer ce que l'on appelle des durées d'exposition à partir des mesures de ces différents isotopes qui vont être formés directement dans les roches par le rayonnement cosmique à faveur de certaines réactions nucléaires. Donc, ce sont des isotopes comme le beryllium-10, le carbone-14 ou l'aluminium-26. Ici, vous avez juste un exemple de cette étude où il a été possible de reconstituer des durées d'exposition. Ici, vous avez 6000 ans, enfin, c'est exprimé en milliers d'années. Donc, ces roches ont été exposées depuis 6000 ans, 7000 ans, donc signalent le fait qu'il y a eu un retrait lors de la période holocène de cette calotte du Groenland. Alors pour l'instant, il s'agit d'une étude très récente. On attend, enfin, nous y contribuons, mais d'autres groupes y participent aussi. Et au même titre que les données de reconstitution du niveau de la mer périphérique, eh bien, ce ne sont encore que fragmentaires. Pour l'instant, on n'a pas de reconstitution très fine de cette période des niveaux et du retrait post-glaciaire, holocène tardif pour la calotte du Groenland. Donc ça va attendre encore quelques années, mais effectivement, c'est de la science en train de se faire, on y travaille, plusieurs groupes y travaillent, et j'espère que dans quelques années, nous aurons des bilans très fins, à la fois pour l'Antarctique et pour le Groenland, des masses de glace qui ont disparu pendant la période de l'Holocène tardif, depuis 6000 ans jusqu'à l'actuel, où on a vu que le niveau de la mer générale était quasiment le niveau actuel. Pour certaines modélisations, on était un peu en dessous à 2000 ans, mais donc une évolution qui est tout à fait caractéristique et qui attendra encore la recherche des prochaines années pour se préciser. Voilà, j'aimerais maintenant faire un peu un bilan. Je vais vous faire un petit peu un bilan, vous donner quelques conclusions préliminaires finalement sur l'évolution holocène du niveau de la mer. On a vu essentiellement qu'il y avait de nombreux enregistrements qui ont été obtenus à partir d'archives géologiques côtières, que surtout que les formes et les amplitudes des courbes holocènes de remontée du niveau de la mer sont très variables et dépendent finalement essentiellement de la distance par rapport aux anciennes calottes de glace. On a vu que directement sous les calottes de glace, on avait même le niveau de la mer qui descendait, c'est lié au fait que le continent remonte, alors qu'aux antipodes, on avait des phénomènes transitoires, en particulier un haut niveau de la mer, qui est purement un effet géophysique à l'échelle mondiale. Lorsqu'on tient compte de toutes les courbes du niveau de la mer, cette complexité observée, elle est due finalement à des phénomènes de réajustement géophysique, le phénomène de réajustement hydro-isostatique post-glaciaire ou rebond post-glaciaire. On a vu aussi qu'il était possible de modéliser le phénomène avec des modèles géophysiques et que ces données, lorsqu'on les utilise collectivement en combinaison avec les modèles, eh bien, il est possible de reconstituer une évolution du niveau moyen général, le niveau moyen eustatique. Il y a encore une certaine variabilité, donc encore une fois, c'est aussi une science qui est en progrès. Mais ce que l'on voit, et c'est vraiment une des caractéristiques, c'est que depuis le début de l'Holocène, le niveau de la mer moyen a varié pratiquement de 50 mètres, avec quasiment une stabilisation. Il y a 6000 ans avant maintenant, il y a encore un peu de controverse pour savoir si, effectivement, il y a eu une évolution depuis 6000 ans. L'évolution est assez faible en amplitude, et pour l'instant, elle est assez difficile. Je vous ai montré qu'un modèle présentait une évolution de pratiquement 2 mètres, un autre modèle ne présente pas d'évolution, l'hypothèse étant que les 2 mètres sont cohérents avec des données géomorphologiques précises étudiées en Antarctique et aussi au Groenland. Et c'est effectivement ce que les conclusions actuelles, c'est qu'il y a probablement une contribution depuis quelques millénaires des deux calottes actuelles, Antarctique et Groenland, mais pour l'instant, il est assez difficile de faire des bilans régionaux de ces deux calottes de glace. Ça va attendre effectivement certains progrès à réaliser à la fois sur la modélisation géophysique, en particulier la prise en compte tridimensionnelle des propriétés du manteau et des roches, et d'autre part des données à la fois mondiales à l'échelle mondiale pour les différentes courbes de niveau de la mer, mais aussi des données beaucoup plus localisées en périphérie des calottes de glace pour essayer de matérialiser et de dater les différents épisodes de retraite pendant la période holocène. Voilà, je vous remercie de votre attention.